Au nom de quoi fixer un objectif collectif? La question se pose aussi bien à des institutions représentées par un souverain éclairé, par un dictateur bénévolent, c'est-à-dire recherchant le bien-être collectif, que par un dictateur ne visant qu'à l'enrichissement rapide de sa propre famille. Ou bien elle est posée à des institutions d'une démocratie avec assemblée de représentants du « nous ». On voit bien que le critère de choix d'une politique économique doit combiner efficacité et justice. Supposons en effet qu'on privilégie le critère d'efficacité, et plus précisément par exemple la croissance du revenu moyen, sans se soucier de savoir comment va être répartie une croissance plus rapide. Cela peut poser un problème de justice. Si, comme c'est le cas aux États-Unis depuis 30 ans par exemple, les 1% les plus riches accaparent l'essentiel de la croissance supplémentaire. Si de plus, ils s'en servent pour se ghettoiser et se réserver l'accès à la meilleure éducation et à la meilleure santé, dégradant ainsi l'accès des 99% restants à ce que Amartya Sen appellera des opportunités essentielles au bien-être dans une définition élargie. Alors, dans ce cas, on voit bien que se pose un problème de justice. Toute norme de jugement doit donc trouver un équilibre entre efficacité et justice. Et par conséquent, elle doit proposer une théorie de l'articulation entre les deux. Très schématiquement, nous disposons aujourd'hui de trois types de critères de choix. Le premier est le critère de Vilfredo Pareto, établi au début du XXe siècle. Il est purement économique. Ou plutôt, il renvoie les problèmes de justice à la répartition initiale des moyens de production, répartition qui, dans le modèle, sont supposées données. Le critère de Pareto dit qu'une politique, et plus généralement une action économique, est recommandable si elle accroît le bien-être, en pratique c'est le revenu, d'au moins quelques-uns, mais sans dégrader celui des autres. Comme la répartition des revenus dans un modèle d'équilibre général néoclassique ne dépend que des dotations initiales de facteurs de production, si une certaine distribution des revenus optimale au sens de Pareto ne l'est pas au sens d'un critère quelconque de justice, alors les néoclassiques disent qu'il faut séparer les deux problèmes. Il faut modifier, si on le souhaite, la dotation initiale des facteurs de production, mais ensuite il faut laisser le libre jeu des marchés atteindre un optimum de Pareto. Tel est donc le critère de Vilfredo Pareto. John Rawls, un philosophe américain, a repris le problème ces dernières années dans sa célèbre théorie de la justice. En schématisant à l'extrême le critère de Rawls, on dira qu'une société est économiquement juste, premièrement, si elle assure à chacun un panier minimum de biens et services essentiels, et deuxièmement, si la croissance des inégalités de revenus se traduit aussi par une croissance des revenus les plus pauvres. Autrement dit, si la richesse créée en haut de la société ruisselle vers le bas et améliore le sort des plus pauvres. Une troisième approche, plus exigeante encore que celle de Rawls et a priori de Pareto, résulte des travaux d'Amartya Sen. Amartya Sen, lui, définit une société juste comme une société qui donne à chacun des libertés réelles et non pas formelles d'accès à un certain nombre de biens et services, voire d'accès tout simplement à des relations avec les autres ou à des informations. Ces capacités d'accès donnent à chacun la possibilité, et ce, non pas seulement au départ de la vie, mais durant toute sa vie, de, par son effort personnel, améliorer son propre sort et obtenir la vie qu'il a raison, dit Sen, de vouloir avoir. Ce critère est beaucoup plus exigeant. et dit qu'une société juste est celle qui ne fournit pas simplement un revenu croissant aux plus pauvres et qui extrait tout le monde d'une espèce de seuil de pauvreté, mais que c'est aussi une société qui donne à chacun la possibilité, tout au long de sa vie, d'améliorer son sort en ayant accès à la santé, l'éducation, un logement salubre qui permet la privauté, toute une série de services essentiels comme l'eau potable, l'énergie, les moyens de transport faciles dans une ville, et bien sûr, accès au marché du travail, au marché de l'assurance, au marché du crédit, accès aux autres, et enfin, accès à la liberté politique qui donne droit à participer à la délibération et au processus qui permet de peser sur la définition de l'objectif collectif. Voilà donc les trois types de critères de jugement des politiques économiques dont nous disposons aujourd'hui. Selon que l'on adopte l'une ou l'autre, l'objectif global peut être très différent. Avec Pareto, ce sera la maximisation de la croissance du revenu moyen, du moment que personne n'y perd ou que les gagnants compensent les perdants. Avec Rawls, même objectif, mais à deux conditions complémentaires. D'abord, tout le monde doit disposer d'un minimum. Et deuxièmement, l'enrichissement des plus riches doit ruisseler vers les plus pauvres. Pour Senn, l'objectif central porte sur les inégalités d'accès. Tout le monde doit avoir les moyens de construire la vie qu'il souhaite avoir. Pour finir, j'insisterai sur un point. Quand un économiste vous dit « il faudrait faire cela », il faut toujours lui demander quel est son critère de jugement. Il faut lui demander de l'expliciter. Bien souvent, si des économistes ne sont pas d'accord et proposent des politiques différentes, c'est qu'ils n'ont pas en vérité le même objectif et que celui-ci n'a pas été clairement explicité.